Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue en ce mercredi soir, mercredi 21 février, 20h pétante. C'est l'avant-match Champions League ce soir sur l'antenne de Beurre FM avec toute l'équipe de Time Sport. Au 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport ce soir. Au menu de cette émission, on va parler de quoi ce mercredi soir? On va parler d'Arteta et ses fameux Gunners du côté de Porto au Portugal. Le Napoli, ça devient bah oui, un match légendaire pour la Champions League avec le Barcelone ce soir du côté du stade Diego Armando Maradona dans la ville de Naples, hein, qui culmine avec son fameux Vésuve. Et on parlera aussi d'Aurélien et sa fameuse chronique qui nous enchantera encore une fois ce mercredi soir avant d'accueillir Vanessa 21h-23h. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Le débat du jour, quelles sont les chances pour Arsenal en Champions League sur cette édition 2023-2024, voilà, selon vous, vous réagissez, un petit clin d'œil, un petit coucou, ça fera plaisir à tout le monde. Allez, c'est parti, go go Time Sport.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Eh oui, c'est une passe à l'aveugle comme Gaucho à l'époque, ça faisait tant plaisir, hein. Eh oui, on s'en souvient avec les Blaugrana. Ce soir, on accueille un grand monsieur qui est avec nous, c'est Soufiane, avant de partir. Eh oui, comme Djouba qui est à l'écoute encore une fois ce soir, attention.
C'est ça, bonsoir à tout le monde, bonjour aux éditeurs, aux auditrices, je suis content d'être ici. Donc voilà, bientôt je vais partir à l'étranger, ouais. Donc je
profite. Il va nous manquer.
Ouais, mais je vais revenir vite.
Ouais,
et moi aussi, vous allez me manquer. Et c'est pour ça que je vais bien profiter ce soir. J'ai plein de choses à dire et je suis content d'être parmi vous.
Ah ben voilà, il nous revient aussi des studios et aussi des tournages sur TFX, nos confrères qu'on peut apercevoir les mercredis soirs. C'est le coach Tollé. Bonsoir, le coach.
Bonsoir tout le monde.
Comment ça va?
Ça va impeccable.
Content
de
mieux.
Revenir.
Au moins, tu as le sourire, le coach Tollé. Marseille toujours. N'a plus le sourire. Ouais, malheureusement. Mais je t'arrive pas, mais c'est vrai. Mathieu, on en a parlé
oui,
hier. Hein.
C'est vrai, c'est les montagnes russes, Marseille, mais ça c'est connu depuis jeudi, tu sais, depuis la remontée de l'OM en, quand Dreyfus a repris le club en 97.
Ouais.
T'as des périodes comme ça, c'est vrai que c'est les montagnes russes en termes d'instabilité chronique de ce club.
Ouais.
Mais on espère quand même qu'ils arriveront à se qualifier pour les huitièmes de finale face à une très belle équipe du Shakhtar. Hein.
Ouais, c'est vrai. Demain soir, justement, face aux Ukrainiens. Oui, Yacine, bonsoir. Comment ça va, Yacine?
Ça va très bien. Quand on parle de Marseille, ça
ouais,
fait...
Marseille.
C'était qui était là? Et
alors,
Marseille, le grand club français, le truc, ils nous racontaient. Et on voit aujourd'hui que la gestion du club marseillais, c'est pas du tout digne d'un grand club. Quand on voit,
elle est pas belle.
Quand on voit la valse des entraîneurs, mais après Bilal, hein,
ouais,
qui dit Marseille, dit l'Algérie. Hein.
Ah, Marseille, l'Algérie.
Hein.
Ah ouais,
alors,
ah ouais.
C'est
toi Yacine qui le dit. Oui.
Voilà.
La Méditerranée.
Là, eux, ils ont pris un entraîneur.
Et après le continent africain en face.
Va le faire dans les prochaines heures, mais souvent. Les crises de l'Olympique de Marseille coïncident souvent avec celle des Fenech.
Ah ben ouais, avec celle des Fenech.
Le sort est lié.
Ah ben ouais, c'est lié.
Gotas avait 72 ans lorsque l'OM a gagné la Ligue des Champions.
Ah ben voilà, 72 ans. Ça fait longtemps, mais on s'en souvient.
Je pose ça.
Mais ça remonte. Eh oui, mais ça remonte.
Ça n'a rien à voir.
Il était
bon pour la retraite, non?
Mathieu, au collège, n'a rien à voir.
Mathieu, bonsoir, comment ça va?
Bonsoir, Bilal, bonsoir tout le monde.
Oui, Marseille, on est obligé d'en parler. Hein.
Oui, Yacine, ça va, je suis content d'être ici avec ce beau plateau. Et non, on a encore des belles choses à dire et de quoi s'amuser, donc il y a du boulot encore.
Il y a du boulot, ouais. Comme dit Solal à la réalisation, qu'on pourra retrouver jusqu'à 23h. Bonsoir Solal, comment ça va?
Buonasera a tutti, bah écoute, ça va pépère, hein. Franchement,
ouais,
cette musique m'égaye tous les soirs. Dès que j'entends la musique de la Champions League qui redémarre à l'instant, chers amis, c'est une très très belle soirée qui s'annonce. Bon, un peu triste par rapport à l'Atlético et ses colchoneros qui sont inclinés face à cette Inter magnifique.
Ouais.
Bon,
j'ai les deux maillots chez moi, je suis
les tout intéresse. à fait. Et petit remerciement à un certain animateur de talent qui m'a appelé ce matin. Voilà, dans les coups de 6h45 pour prendre des nouvelles.
On fait du montage, ça appelle tranquillement.
Et dernier petit truc, Soufiane, qui est un homme grand et comme tu l'as dit, un grand homme aussi.
Alors
les deux à la fois, attention.
Au moins, ça s'est dit. Vas-y,
Yacine. Bilal, tout à l'heure, je suis parti manger une petite pizza dans un restaurant italien ici à Paris.
Ouais.
Et par hasard, je croise deux sœurs.
Alors.
Et c'est des grandes, c'est des Kabyles, hein.
Ouais.
C'est des Kabyles comme moi.
Ouais.
Et elles
comme
sont, elles sont de grandes supportrices de l'Olympique de Marseille. Et elles m'ont posé la question, elles m'ont dit, pourquoi Marseille, ils ont pas trouvé quel entraîneur pour prendre un, voilà, comme tout le monde reproche le choix de,
ouais.
de Jean-Louis Gasset. D'ailleurs, on tient à leur passer
bonsoir.
Un grand bonjour à Tin Hinen et à Kahina. Bah, c'est deux reines berbères. Hein.
Ouais.
Voilà, elles sont originaires de
Razaska. Pour l'historique.
Voilà. Donc, je leur ai promis, d'habitude. Je leur ai dit, il faut parler de Marseille.
Ouais.
Ben, j'ai dit, c'est le sujet.
On a parlé de Marseille.
Voilà, on a parlé
en
de
introduction,
Marseille.
On a parlé de Marseille, Yacine.
Voilà.
On en a parlé depuis lundi soir. Et oui, le coach Tolé. Il y a trop de Marseille, on nous a dit.
Mais ils sont pas Ligue des Champions.
Ils sont pas Ligue des Champions. Ce soir, c'est la Ligue des Champions. On a dit la raison, Selim. Le Paris Saint-Germain est toujours en lice dans cette Ligue des Champions.
Le PSG, là, le PSG.
Porto, les Portugais rencontreront donc ce soir 21h Arsenal, les hommes d'Arteta. Les probabilités des bookmakers, ça français, hein, Porto 17% de chance de l'emporter, match nul à 24 et 59% à près de 60 pour les Gunners d'Arsenal.
Faut pas encourager les paris.
On sous-estime beaucoup le FC Porto.
On
sous-estime beaucoup le FC Porto.
On sous-estime justement le coach Tolé. Attention.
Je rebondis là-dessus.
À chaque fois qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, on les a pris là-dessus.
Vas-y, le coach.
Je pense qu'on aura le temps, bien sûr, de parler d'Arsenal
et d'Arteta
qui est quand même, voilà, c'est quand même l'équipe là, qui est en train de monter depuis quand même bien deux saisons. Mais le FC Porto, c'est intéressant, c'est championnat, parce qu'en fait, à part les Portugais, entre guillemets, on s'intéresse absolument pas au Benfica, au FC Porto, voire au Sporting. Et en fin de compte, ce sont des clubs qui font partie des
clubs européens.
Des murs de la Coupe d'Europe. Ouais. Et le FC Porto arrive toujours soit en huitième, soit en quart. Et quand ça se passe très très bien, ils arrivent à aller en finale et gagner.
Et même s'ils n'arrivent pas en huitième de finale, ils font toujours un très très bon parcours en Ligue Europa.
Exactement.
Porto, alors c'est surtout Benfica, mais Porto a quand même vraiment cette culture,
cet ADN de des champions. Mais tu parlais de Porto ou du championnat portugais, on peut dire la même chose du PSV Eindhoven ou de l'Ajax et l'Eredivisie.
Ouais,
parce qu'on a vu hier soir le PSV bien embêté et faire un but partout.
Ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est vrai que ils sont beaucoup plus réguliers pour moi, les clubs portugais, tu sais, en Coupe d'Europe. Ils ont cette capacité, surtout d'aller chercher des pépites qui sont vendues à prix d'or.
Ouais. Et c'est des grands clubs, parce qu'on voit aussi, ils ont de grands moyens. Le Porto,
mais je pense que ça se joue à la gestion. On parle de clubs qui sont bien gérés, mais depuis au moins plus de 20 ans.
Mais on peut dire même plus de 50 ans, plus de 60 ans.
C'est des clubs en termes de gestion.
C'est
Porto,
des grands clubs européens.
Benfica, mine de rien, même le PSV Eindhoven, l'Ajax, même s'ils ont eu des coups de mou pendant une année ou deux, c'est des clubs où leur gestion, Dortmund, c'est des gestions mais vraiment bien ficelées. Ouais. Par rapport, on parlait à Marseille, on parle de Lyon, on parle de Rennes, on parle de Monaco. Mais non, mais il faut qu'on prenne exemple à un moment donné nos voisins.
Surtout que ce sont des gros clubs, des monstres du football européen qui ont gagné des Coupes d'Europe. Ça aussi, on l'oublie un petit peu.
Des Ligues des Champions.
L'Ajax, notamment, les années 70, Porto.
Porto,
il n'y a pas si longtemps.
Tu disais qu'on n'attendait jamais Porto, mais même en 2004, quand ils gagnent, on les attendait pas.
Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que.
Et triple vainqueur de la Ligue des Champions.
Ce sont des clubs qui ont fait partie. Qui ont fait partie justement souvent des favoris pour la Coupe d'Europe et qui ont su après se réinventer en faisant partie des centres de formation les plus importants à travers l'Europe.
C'est que à Porto, moi mes souvenirs, après je suis pas connaisseur là-dedans, mais il n'y a pas beaucoup de Portugais à Porto.
Si y en a,
c'est beaucoup de Brésiliens.
T'en as ou Portugais.
Les Portugais, généralement, ils sont sportifs de Lisbonne, Benfica, Porto, c'est beaucoup de joueurs étrangers. Mais c'est juste pour faire la comparaison avec nous en France, on a un vivier quand même qui est bien fourni. On n'est pas capable de ressembler à ces clubs-là.
Ouais, après Porto, Benfica, ou surtout Porto, ils ont cette faculté de scouter, d'aller chercher les meilleurs joueurs jeunes brésiliens qu'ils mettent en avant. C'est pas forcément les grandes stars brésiliennes arrivent à Porto, parce que leur politique, c'est d'acheter et de vendre. Après, ça leur arrive aussi, par exemple, quand on revient au milieu des années 80, Algériens, quand ils ont pris l'international algérien Rabah Madjer sur une cassette vidéo, ça pour vous dire, hein, il a été recruté sur une cassette vidéo, alors qu'il arrivait, il a eu du mal à s'imposer en France, il n'arrivait pas à s'adapter, il est passé par le Paris FC, il a failli atterrir même au FC Rouen à cette époque, Rabah Madjer, et sur une simple cassette, les Portugais ont compris qu'ils avaient affaire à un énorme joueur. Et la suite leur a donné complètement raison. On voit la finale 87 contre le Bayern, le but qu'il met. Après, il a dominé, il a éclaboussé de sa classe le championnat pour l'équipe pendant presque 5 ou 6 ans. Ça, c'est juste un exemple. C'est-à-dire ils ont une vision assez on va dire, complètement différente des clubs français dans le recrutement.
Ouais. Mathieu, on l'écoute.
Je vous rejoins là tout à fait. Et après, plus récemment, ils ont eu des joueurs comme Radamel Falcao, comme James Rodriguez.
Ouais, ils ont eu des bons. Hein.
Radamel on Falcao qui est l'un des...
pardon, des rares joueurs arrivés quand même avec un statut de star à Porto. Hein,
oui, Falcao. Quand même...
C'est pas le cas de James Rodriguez hein, quand il est arrivé.
Qui est quand même l'un des meilleurs neufs de ces dernières années.
Ah oui, ça a été peut-être le meilleur attaquant de sa génération.
Il est arrivé à l'Atlético Madrid. Enfin, c'était vraiment très très fort. Ils ont toujours... En fait, ils arrivent... Je te rejoins, Claude, il disait... Ils arrivent toujours à se renouveler,
mais que ce soit. C'est impressionnant.
Même plus récemment, on voit le Sporting ou même Braga qui font des bons résultats.
Braga qui arrive maintenant.
On a tendance à sous-estimer le championnat portugais, mais il faut regarder les matchs du championnat portugais pour se rendre compte qu'ils n'ont pas à envier énormément au championnat de France.
Mais pour moi, il est au-dessus de la France.
J'insiste vraiment sur cette comparaison avec l'Eredivisie et le championnat.
Aux Pays-Bas.
Néerlandais, parce
c'est
que
vrai.
Le PSV Eindhoven, j'ai vu le match hier soir, franchement, ça joue très bien. Les matchs contre Lens où ils ont posé d'énormes problèmes aux Lensois. Enfin, il y a vraiment le match contre Arsenal où ils se sont complètement loupés.
Le PSV Eindhoven est une institution européenne.
L'Ajax, même si ça va un peu moins bien, si ça allait moins bien en ce début de saison, là, ça va déjà beaucoup mieux. Ils sont remontés au classement.
Ah, il y a une vraie institution de ces clubs-là.
Et on a vu justement, tu parlais, Soufiane, de clubs bien gérés. Quand c'était vraiment le bazar en début de saison, ils ont tout reconstruit avec changement d'entraîneur, changement à la tête du sportif, et on voit que ça va petit à petit, ça va un peu mieux. Et il faudrait prendre exemple là-dessus par rapport à nos clubs français et en particulier très mal en ce moment.
Il y a un problème culturel aussi, c'est que ce sont aussi avant tout
l'Angleterre, le Portugal,
les Pays-Bas, ce sont des vrais pays de sport et de football. C'est ancré depuis quand même des décennies, des décennies.
Selon toi,
quoi.
La France,
même la France, c'est
un pays de
football.
On a du talent, mais on n'est pas vrai.
C'est un pays de football. Au niveau de l'indice UEFA.
Bien sûr.
Parce que ça, c'est des calculs. Hein. Oui. Mais la France reste un pays de football.
Bien sûr que la France reste un pays de football.
Quand tu regardes.
C'est un grand pays de football, la France.
On parlait de l'éclosion de Braga, du Sporting, etc. Si ça continue à aller vers le haut avec Porto qui reste régulier comme ça en Ligue des Champions, 8e quart, Benfica qui arrive à s'intégrer ou à faire des bons résultats en Ligue Europa. Et pareil pour PSV, Ajax, etc. Et que nous, on n'arrive pas à hausser notre niveau de jeu, on peut vite se retrouver 6e ou 7e.
La France n'a jamais été un pays des grandes compétitions européennes.
Mais c'est pas normal.
Depuis Saint-Etienne, l'épopée des Verts en 76. Après, heureusement qu'il y a eu Reims dans les années, on va remonter aux années 50, quand ils ont fait la finale de la Ligue des Champions avec Krupa et les grands joueurs qui composaient à l'époque le stade de Reims. On va parler sur les 30 voire 40 dernières années. Ouais. Il y avait le grand Marseille avec Bernard Tapie et notre ami le Belge de 62 ans.
Gotthals qui a
montré quand même que c'est un grand bonhomme dans la gestion. C'est-à-dire, c'est les profils qu'il faut pour un club comme Marseille. C'est pour ça que moi, je suis un peu peut-être que...
D'accord avec Jean-Claude Delay, tu rejoins
Gassé pourrait peut-être correspondre un petit peu à
Vraiment la chance à monsieur Gasset.
Bah oui, il faut pas le condamner parce qu'on l'a beaucoup condamné par rapport à ce qui est arrivé pendant la CAN avec la Côte d'Ivoire, avec son licenciement. On va dire, pour moi, c'est abusif parce que c'est lui qui a monté l'équipe. Ça fait 2 ans, il a travaillé, il a formé, c'est lui qui a tout. Moi, j'aimerais bien voir de quoi il est capable, Emers Faye, au jour d'aujourd'hui, de débuter une compétition tout seul et de voir gérer.
C'est autre chose.
Parce qu'ils ont été dans une dynamique, ils ont été emportés pour tout un peuple. Voilà. Mais le vrai travail, normalement, Emers Faye va dire merci à Gasset. Et c'est lui qui a fait le boulot et il mérite. Il a même 80% dans la consécration des éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est de l'ingratitude de ne pas reconnaître le travail d'un homme.
Ouais. On le reconnaît, nous, ici, sur l'antenne de Beurre FM. Soufiane. 4-0.
Ça arrive dans le football.
Marseille, le Bayern n'est pas. Marseille n'est pas en Ligue des Champions. Là, ce soir, c'est Ligue des Champions. Justement, il y avait une question, elle était intéressante. Yacine, c'était les Gunners d'Arsenal vont-ils s'habituer, justement, à jouer sans Gabriel Jesus? Ouais. Ça, c'était une question.
Ils n'ont pas le choix.
Ouais, ils n'ont pas le choix.
Il est blessé tout le temps.
Ah, ils sont neuf.
Il est blessé tout le temps.
C'était une bonne question. Hein.
On nous dit, et au début, quand Gabriel Jesus a signé, j'ai trouvé ça formidable. Parce que je me suis dit, c'est quand même.
Même s'il
a réussi moyennement à Manchester City, ça reste quand même un très grand attaquant. Qui marque, qui peut marquer 30-40 buts par saison. Mais là, depuis qu'il est arrivé, il est tout le temps blessé. Alors. Les interrogations, mais au final, les interrogations, elles ont été mises de côté parce que à chaque fois, Nketiah, il fait des très bons matchs, il marque des buts. Quand il joue en faux neuf avec Kai Havertz, il plante aussi des buts ou il fait des passes décisives.
Je pense que dans ce dispositif, c'est là où Kai Havertz, il est le plus prolifique pour les Gunners parce que quand on le met. En tant qu'attaquant, attaquant de pointe, on a l'impression qu'il
parce qu'il a besoin de toucher des ballons.
Exactement. Il est obligé de revenir un peu en arrière, prendre un petit peu de distance, voilà, courir, faire les appels, donner, recevoir.
Il est trop technique pour jouer buteur.
Statique, ouais.
Et les flèches qu'il a sur les côtés, et il a un chef d'orchestre magnifique qui est Martin Odegaard. Donc Arteta aussi, crédit à Arteta, même si c'est sur la blessure de Gabriel Jesus. Mais Arteta qui a réussi à s'adapter, à changer de système.
Mais quand on joue une Ligue des Champions, quand on est à ce niveau-là, et il faut toujours avoir une profondeur de banc. On a un plan A, un plan B.
Ouais, mais t'en as qui n'en ont pas.
C'est grave.
Ouais.
Ça a été le cas à Marseille avec ce qui s'est passé. On a vu l'arrivée de Gattuso. On l'a vendu comme l'homme de la situation parce que beaucoup de monde confondent crier. Gesticuler sur le bord et travailler.
Oui.
Et travailler. Voilà.
C'est pour ça que je te dis, on désingue les entraîneurs qui n'ont pas de solution. Donc les entraîneurs qui ont des solutions, il faut dire bravo. Et là, Arteta, depuis 2-3 ans, c'est très bien en championnat. Oui. L'année dernière, ils ont eu un trou.
Dans un autre club, ils n'auraient pas survécu.
Parce qu'en France, on ne laisse pas travailler les entraîneurs.
Ouais. Mais en France, c'est les mêmes entraîneurs qu'on voit depuis 30 ans.
Par exemple, le PSG, il a changé combien d'entraîneurs depuis Souleyman Qatari?
Le PSG, combien de fois il a changé d'entraîneur?
Rennes, il a changé combien de fois d'entraîneur? Monaco, combien de fois d'entraîneur? En France, tu tiens pas, tu fais des CDD d'un an. Et si tu prouves pas dès la première année.
Regarde Lyon, ils sont leur troisième coach de la saison. Marseille, ils sont leur troisième coach de la saison.
C'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup les Anglais sur ça. C'est qu'ils te laissent travailler. Il te laisse vraiment travailler. Faut pas oublier qu'un Liverpool, comment il s'appelle, j'ai oublié son prénom.
Jürgen Klopp,
quand il arrive, il reprend Liverpool. Ils sont à la ramasse, Liverpool. Ils ont laissé travailler pendant des années. Aujourd'hui, c'est devenu
Liverpool. Chers auditeurs et auditrices, on va revenir avec toute l'équipe, y compris Sofiane, concernant la soirée de la Champions League avec justement le Napoli qui rencontrera le Barcelone. On essaiera aussi de revenir sur l'Olympique de Marseille parce que je crois que ce soir, le plateau est un peu trop bleu et blanc sur cette antenne. Allez, à de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 22 minutes. Voilà, c'est l'avant-match des deux derniers. 8e de finale aller, bien évidemment. Hein. On parlera aussi, on a parlé du Porto face aux Gunners d'Arteta. Et on va revenir cette fois-ci sur le Napoli versus Barcelona. C'est parti.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, c'est un match assez chaud ce soir du côté du Napoli. Ouais. Eh oui, la ville est en ébullition. Ouais, eh ben c'est ça. C'est, le Vésuve aussi. Attention, ça, faut qu'il reste toujours au sommeil. Hein.
Comme on dit en off, ça fait un moment qu'ils se rend, qu'ils se rencontrent en phase finale de Champions League. Donc là, que je pense que ça commence à devenir un petit derby sympa. Ouais. Après, la situation de Naples en ce moment, elle est,
bah,
elle est
assez compliquée. On parle de Marseille, bon, les deux villes se ressemblent à peu près. Non, mais c'est pareil, hein, c'est kiff-kiff. Hein.
Naples, ouais, c'est un peu Naples catastrophique. Hein. C'est le troisième entraîneur qu'ils prennent là, c'est ça. Hein. Ouais. Ils ont viré Rudy Garcia, aussi, ils ont viré le second. Hein. Ouais. Et juste avant, en plus, le match contre Barcelone. Donc ce soir, ça va être un match un peu étrange à Naples. Puis l'année dernière, ils ont survolé le championnat, ils étaient à fond. Et cette année, comment il s'appelle, j'oublie l'attaquant phare, comment
Victor
il s'appelle,
Victor Osimhen.
Victor Osimhen, l'année dernière, il était à 36 buts. Là, je crois qu'il a mis combien de buts, ouais. 6, 7.
Il y a eu des petits problèmes, hein. Mais, il y a eu des petits soucis aussi.
Ouais, mais c'est incroyable de passer en début de saison. De là-haut à descendre.
Il va d'ailleurs peut-être partir, hein, Victor Osimhen, ouais, cet été, avec des problèmes avec son président. Hein.
Ouais, il a des problèmes. Mais ouais, c'est ça, quand on voit la grandeur.
On va voir Nasser depuis l'Italie aussi.
La grandeur d'un grand joueur, Drogba, Eto, quand ils ont évolué dans de grands clubs, Eto, il a même joué une finale de Ligue des Champions
latéral droit.
Ouais, c'est Samuel Eto, qu'on le veut ou pas. Ouais. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du football africain.
Il a joué une demi-finale. À 10, en fait, il a replacé
les contrôles. Oui, même la finale, il était sur le côté. Drogba, c'est des grands attaquants. Et à un moment donné, j'ai l'impression, hein, c'est mon ressenti personnel, Osimhen, il est mal conseillé. Il est vraiment mal conseillé. Il joue déjà dans un grand club qui est le Napoli. Je pense qu'il est valorisé. C'est-à-dire, je pense qu'il a un gros salaire. Il a été élu meilleur joueur africain de l'année, Ballon d'Or africain. Je pense que tout ce qui lui arrive, il n'arrive pas encore à le digérer. On a vu sa CAN, hein, elle était, on va dire, même médiocre. Et il a traversé toute la CAN, on va dire, transparent.
Hein. Il a mis qu'un but, je crois.
Ouais. Il a mis qu'un but, même sur le plan, là, ce soir, il n'a pas du tout influé, ni influencé.
Non, mais là, c'est pas que lui. C'est, ouais. Après, je parlais de lui, mais.
On parle d'Osimhen.
L'ambiance de Naples, elle est bizarre. Même le président, je sais pas comment il gère les choses.
Comme tous les présidents, c'est des hommes d'affaires, c'est des businessmen. Ouais, il regarde combien tu coûtes. Combien tu vaux, combien il t'a acheté, combien il va te vendre, il n'a rien à serrer de qui tu es. Donc c'est ta personnalité qui va lui montrer qui tu es. C'est vraiment, tu arrives à t'imposer, à élever le niveau. À un moment donné, on te respecte dans le monde du football. Pourquoi ? Il y a beaucoup de joueurs, tu prends Zidane, ou c'est des joueurs qu'à un moment donné, par leur attitude personnelle, ont imposé le respect. Mais si tu rentres dans des considérations qui ne font pas avancer ta carrière, tu rentres dans des trucs des fois personnels, ton attitude à l'entraînement. Oui. Un footballeur de ce niveau-là devrait être l'exemple.
Ouais, là, c'est le gros niveau. Hein.
Si tu ne donnes pas l'exemple, à un moment donné, tu ne te fais plus respecter.
Ouais.
Naples-Barcelone
ce soir. Vas-y, Mathieu.
C'est global, mais là, sur les cinq derniers matchs, par exemple, Naples, c'est une seule victoire sur les cinq derniers matchs et c'était à domicile contre les Lazio. C'est-à-dire qu'ils ont fait match nul contre le Genoa à domicile, ils ont perdu contre l'AC Milan, ils ont fait 0-0 à Rome contre la Lazio, et ils ont perdu en Supercoupe d'Italie contre l'Inter Milan.
Toute cette période, Osimhen, il était en Coupe d'Afrique,
oui,
des Nations.
C'est pour ça.
Il y a une Osimhen dépendance. Quand lui va mal, le Napoli va mal.
Je rejoins Soufiane là-dessus, c'est qu'il n'y a pas que Victor Osimhen dans cette équipe.
Oui, bien sûr, il y a tout l'effectif.
Il y a plein d'autres choses qui ne vont pas.
Ouais, c'est l'ambiance globale.
On ne retrouve pas le Gvara aussi de l'année dernière.
Oui.
Les défenseurs qui étaient là, ils font moins bien le boulot, ils prennent plus de buts que l'année dernière. Au milieu, c'est moins fluide. Donc forcément, Osimhen, il a moins de ballons et Osimhen, il marque moins.
C'est ça qui fait la différence entre un grand club, une institution et un club qui arrive à faire des coups. Et Napoli a toujours fait des coups pendant, ils peuvent passer à côté de la... Heureusement que les dernières années, ils sont encore là.
Le jour joint Yacine, c'est que le Napoli n'avait plus été champion d'Italie depuis 89.
Oui, c'est ça. Maradona. Ouais.
Voilà, donc déjà ça montre quand même, ça veut dire quand même beaucoup. Ça veut dire que ce club-là n'a plus été habitué à gagner des titres. Et fallait pour moi, il n'y a rien de surprenant d'avoir une saison aussi compliquée
Et à chaque fois qu'ils ont gagné le titre, il y avait un joueur exceptionnel.
Parce que pour vous, le titre n'a pas été digéré.
Non. Moi, je pense que quand il y a une attente aussi importante.
Mais on est au mois de mars.
Faut que ça se digère aussi.
C'est un gros buffet.
Quand tu as une attente aussi importante.
Il faut du temps pour le digérer.
Dans un club aussi populaire depuis 89 et que tu gagnes le Scudetto, ça a un impact tellement énorme que je pense qu'il est difficile après.
Ça fait un moment quand même qu'ils travaillent là-dessus.
Mais deuxième, troisième, c'est pas champion. Quand t'es champion, c'est dur, la remise en question.
Le 0153483000, c'est Nasser qu'on retrouve, lui, là, en Italie. Il va nous donner un peu. Il est juste à côté de Naples, là. Oui, Nasser, bonsoir.
Buonasera à tutti, mes chers amis.
Comment ça va?
Ça va, Nasser.
Vous m'entendez?
On entend très, très bien, Nasser. On entend que vous.
Quelle rencontre encore ce soir, hein. Ce soir, ce huitième de finale, allez, entre le Napoli et le FC Barcelone. Deux équipes avec des visages bien différents. Cette saison, elle est décevante en Serie A italienne, cette équipe du Napoli, mais elle est performante en Ligue des Champions. On le voit, bien sûr, à l'image de Victor Osimhen et ses coéquipiers qui ont toujours terminé en deuxième position derrière le Real Madrid. Je vous rappelle lors des groupes, je rejoins ce que disait tout à l'heure sur le tableau, tout à l'heure en parlant d'Osimhen. Je crois que c'est Yassim qui parlait d'Osimhen. Effectivement, il est performant en Ligue des Champions. Alors oui, il y a eu de l'actualité cette semaine avec la nomination de Francesco Calzona, hein, l'ancien sélectionneur de la Slovaquie, à défaut d'avoir pris Christophe Galtier du côté du Napoli, car on parlait beaucoup de lui.
On n'entend plus Nasser. Ouais. On n'entend plus malheureusement Nasser. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Mais il donne des informations toujours intéressantes.
Et il dit quelque chose d'intéressant par rapport à Galtier.
Ouais. Il est toujours avec nous. On l'a perdu, Nasser.
Allô, oui. Allô, je
Nasser.
Suis là.
Eh oui, c'est intéressant, mais on vous perd. Ah ben Nasser, on vous perd toujours au même moment.
Oui, parce que j'étais lancé parce que dans le texte, parce que c'est encore une belle affiche ce soir à présenter aux auditrices et aux auditeurs, parce que le Napoli et le Barça, c'est deux équipes qui sont mal en point en championnat, parce que le Barça est à 8 points du leader. Le Napoli, pareil, ne va pas du tout en Serie A italienne. Par contre, en Ligue des Champions, comme je le disais tout à l'heure, ça va très bien du côté du Napoli. C'est pour cette raison que ce soir, il y aura bien sûr, normalement, une victoire du Napoli face au FC Barcelone pour la raison suivante, car vous le savez, du côté du Barça, il y a des absents de marque avec João Félix, Ferran Torres et Gavi, mais il y a quand même une composition d'équipe qui est quand même intéressante du côté du Napoli avec un 4-3-3 et les compositions viennent de tomber, et notamment, suivez bien, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, le géorgien.
Tu vois, c'est l'effet Beurre FM, c'est ça. Yassine, il en rigole aussi. Hein. Je crois qu'il a mangé un frite omelette, Nasser, hein, ce soir. Hein.
Nous, on va le prendre après
le frite omelette.
Mais non, mais c'est pour ça qu'on aime le foot, c'est pour voir ces rencontres-là. Et puis, je vous rappelle quand même, on joue dans le stade de Maradona. Et que Diego Maradona, paix à son âme, avait porté les couleurs du FC Barcelone, même si ça n'avait pas trop bien fonctionné, et il a joué pour le Napoli.
C'est
quand même un petit clin d'œil de cette visite du FC Barcelone. Alors, bien sûr, attention quand même à cette équipe du Barça, avec Gundogan au milieu de terrain et De Jong. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des absents du côté du Barça, et je pense que ce match aller est vraiment à la hauteur pour le Napoli,
Nasser,
qui devrait s'imposer.
Merci,
bonne
Nasser
Arrivederci.
Bonne soirée, Nasser, depuis l'Italie. Voilà, Nasser, il est là. Et il est assez chaud, Nasser, il se prépare, à ce match-là. Monsieur Tola Yassine, on va retrouver Jouba aussi, ça fait un moment qu'il est avec nous.
Nasser Sakomano.
Sakomano, bien sûr.
Pas Sakomano. El Hadj Sakomano.
Ah, Sakomano, voilà. Sakomano. Il n'y a pas de problème. Vas-y, Yassine, on va retrouver Jouba.
L'ombre de Maradona va planer ce soir sur le stade qui porte son nom.
Diego Armando Maradona.
Et ça fait deux ans qu'il est décédé. Deux ans, trois ans qu'il est décédé.
C'est en novembre.
Big up au plus grand footballeur de la planète.
C'est bon, Yassine. Voilà, le 0153483000, c'est Jouba qui est avec nous. Bonsoir Jouba, comment ça va? Ça va bien Jouba?
Je suis très content d'être
avec vous. Nous aussi Jouba.
Ça va très bien. Ça va très bien et d'autant plus que là, ça va être un match incroyable. Et je salue aussi au passage la Fédération internationale de hockey qui a pris une décision historique d'exclure Israël de toutes ces compétitions. J'espère que la France...
Ok, Jouba, en fait, on n'est pas dans le bon timing à chaque fois. Hein. On n'est pas dans le bon timing, mais c'est bien de le rappeler, mais on n'est pas dans le bon timing. 19h-20h, c'est Adil Farkan. Tu peux enchaîner ce que tu veux, vraiment, sur la géopole, la géostratégie, ce que tu veux. Il n'y a aucun souci. Mais vas-y, c'est bon, c'est une info sport. Tu as raison. Vas-y, on t'écoute. Maradona ou pas ?
Bravo à la Fédération Internationale de Hockey. Et maintenant, le match de ce soir doit être exceptionnel. Parce que quand même, les hommes de De Laurentiis, c'est vrai, ils vont devoir faire face à un changement, un énième changement d'entraîneur. Donc, ce qui peut troubler, évidemment, surtout quand on arrive à ce stade-là de la compétition. Le FC Barcelone, ça a été dit aussi, ça va être très compliqué. Moi, je pense que là, ça peut être l'occasion pour ces deux équipes de se relancer, de redonner une dynamique pour cette fin de saison. On sait que le Napoli est parti il n'y a pas si longtemps décrocher le titre de la Serie A. Hein. C'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça, vous vous en rappelez les gars. Hein. Donc ils doivent réenclencher pardon, une belle dynamique ce soir. Ils le peuvent en tout cas, et le Barça tout de même, parce que le Barça aussi qui doit reprendre du poil de la bête et puis inscrire ça dans le long terme, évidemment, dans cette saison. Donc ça va être un match intéressant avec des équipes qui ont approuvé. Je pense que les deux ont des choses à montrer à leur public, et comme le disait si bien Nasser préalablement, eh ben, ça risque d'être un match d'intensité, parce que, encore une fois, c'est des équipes qui savent jouer au ballon. On a insisté, il faut gros focus sur Osimhen, évidemment, l'ami Osimhen, qui est d'ailleurs pisté par le PSG pour un éventuel départ de Kylian Mbappé. Ça, c'est une info qu'on peut vous donner ici. Osimhen, il est quand même bien descendu, malheureusement, mais dans les starts, dans ce qu'il peut faire. Et là, il doit aussi montrer que dans ces matchs-là en jeu, il peut montrer du poil de la bête. Et je pense que c'est un match vraiment pour prouver. Et je pense que ce soir, les mecs doivent prouver, quoi. Et on va bien voir ça, en fait, le match là, qu'on va suivre ici, sur BFM aussi, quoi, les gars.
Bien sûr. Alors, réaction avec Mathieu et Soufiane.
Ce qui me dérange un peu, c'est... j'en parlais justement avec Soufiane pendant la pub, c'est que... En début de saison, Rudy Garcia est entraîneur donc du Napoli, et on s'est mis à tomber sur Rudy Garcia. Il s'en est pris plein la tête, comme quoi il n'avait pas les épaules, qu'il n'était pas capable, je sais pas quoi, etc. Il s'est fait virer et on voit bien que depuis que Rudy Garcia n'est plus là, ça va beaucoup mieux du côté de Naples. Ils sont remontés au classement, ils sont pas loin du leader. Non, c'est... Enfin, je trouve ça inadmissible déjà cet acharnement quand même sur Rudy Garcia à Naples en tout cas. Et on a vu que son successeur a pas fait mieux. Donc on va voir ce que ça va être pour le troisième. Mais je trouve que Rudy Garcia en a pris plein la tête alors que c'était pas forcément mérité, quoi.
Ouais mais ça c'est
pas mérité.
Ça c'est souvent un mal français. Alors,
ouais. C'est quoi ?
Je comprends pas. Dès que je sais pas est-ce que Rudy Garcia, on peut dire ce qu'on veut, il a fait du bon boulot de son passage à Rome, hein, et il n'y a personne qui pourra dire le contraire. Et après,
À Marseille, il a fait du bon boulot
à Marseille.
Mais je parle en finale de Ligue Europa.
Je parle de son passage en Italie, dernier
entraîneur français à avoir été en finale d'Europe.
C'est ça, on a l'impression que ces gens-là le réduisent. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la consonance de son nom? Ou il s'appelle pas, il n'a pas un nom, peut-être qu'il a consonance espagnole ou portugaise. J'ai le droit de penser ce que j'ai envie.
Oui, mais c'est toi qui le penses. Mais moi, je te reprends.
On
n'est
pas là pour
me
censurer, quand même.
Non, mais on censure pas. Sur cette antenne.
Il y a un problème.
Mais non. On a perdu Mathieu.
Guardiola est en Angleterre. Il n'est pas en France. Il n'est pas français. Il est espagnol, première des choses. Donc moi, je trouve le départ de Garcia de Napoli une erreur. Ils auraient dû le laisser travailler.
C'est une erreur.
C'est vraiment une erreur. J'aime bien Rudy Garcia.
Il n'y a pas de problème. On va revenir sur le Napoli-Barcelone. On va reprendre Juba. On va reprendre aussi, comment ça s'appelle, notre coach Tolé, avec aussi Fala qui est à l'écoute aussi de cette antenne. Il aimerait réagir. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission, on aura Aurélien Duarte. Soyez bien à l'écoute, chers auditrices et auditeurs. 20h38, on va revenir avec Jouba et aussi le Napoli et le Barcelone. Une petite réaction. Il y a Yacine qui m'accompagne avec Soufiane, ouais. Avec Vivien, il n'est pas là, il est absent, mais sans oublier Mathieu et le coach Tolé. On t'écoute.
Je vais juste te tirer les oreilles.
Allez, pourquoi?
Parce que chaque fois que tu parles d'Aurélien Duarte, il faut le dire. Il faut préciser qu'il a été 7 fois champion du monde de boxe thaï. Il faut le préciser que c'est un énorme champion.
Je l'ai précisé
plusieurs
fois.
Voilà, c'est un privilège pour les auditeurs et les auditrices de Beurre FM de l'entendre. Cher Kevin,
fais-toi plaisir.
C'est un immense. Et avec tout. Et c'est quelqu'un, en plus d'être humble et modeste, voilà, aujourd'hui.
Ça
me fait plaisir de lui rendre hommage parce que quand on le voit à la radio, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui est très 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 modeste. C'est tous les sportifs.
Tu me tues le temps de parole.
Si tous les sportifs pouvaient se comporter comme lui.
Tu coupes le micro de Yacine, c'est super sympa et on le met toujours en avant, Aurélien. Et c'est un bonheur de l'avoir avec nous. Merci. Mais moi là, je dois débattre parce qu'on a Fala aussi. Très très connaisseur de la planète football. Et sans oublier Jouba. Le droit de réponse à Jouba, justement. Jouba, comment ça va? Comment ça va, Jouba? Allez, rapidement, Jouba. Rapidement. Ne parle pas des effets nucléaires ou sinon de la grève des agriculteurs.
Il fallait le dire, cette suspension d'Israël par la Fédération internationale de hockey qui vaut jusqu'à la fin du génocide. Bah, ils n'ont pas
envoyé le génocide. Jouba, football. Jouba, football. Allez, c'est bon. On a, voilà, là, allez, on le sent sur Jouba.
Le coach Tolé. Ah non, non, non. Il n'a fait que donner l'information sportive.
Oui, mais bien sûr, bien sûr. Allez. Justement, on n'a pas trop le temps.
Je vais juste réagir tout à l'heure sur Rudy Garcia, je pense que le problème, c'est au moment où ça a commencé à mal tourner pour Rudy Garcia à Marseille. Forcément, bah, Marseille, ça cristallise. Et là, sa réputation, on a pris complètement un coup.
Parce qu'on l'a voulu. Parce qu'on l'a voulu.
Oui.
On l'a voulu atteindre à sa réputation.
Donc, à partir du moment où il a été donc à Lyon, ou au Napoli ou ailleurs, et il y a eu un délit de faciès assez injustifié, injuste, le concernant. Et je trouve ça dommage, mais c'est vrai que c'est un des mal français que l'on a.
Personnellement, quand je l'écoute parler, c'est un entraîneur qui parle football. Il parle football, il connaît le football et c'est un vrai bosseur. J'ai l'impression que dans ce pays, on n'aime pas les gens qui travaillent. Voilà, donc il y a des entraîneurs qui ont bonne presse, il y a des entraîneurs peut-être qui ne jouent pas le jeu des médias. Et voilà, et on fait tout pour qu'ils aient pas une bonne presse. Voilà, et Rudy Garcia, que les gens le veuillent ou pas, ça reste un excellent entraîneur.
Et tu disais que tu parlais de Rudy Garcia, il a fait des interventions sur les matchs de Ligue des Champions chez le confrère de Canal+. Quand il parle football, c'est vrai que c'est super intéressant à chaque fois.
Ça n'a rien à voir avec les autres quand eux ils parlent, quand ils prennent la parole. C'est toute la différence.
Ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit, c'est à chaque fois, que ce soit techniquement ou tactiquement, c'est très intéressant. Et c'est là, comme tu dis, qu'on voit, on entend qu'il connaît très bien son sujet et que c'est un grand entraîneur.
Et puis c'est des gens vrais.
À part à Lille, il a fait quoi Rudy Garcia réellement? Non mais les gars, vous me parlez de Rudy Garcia comme s'il avait gagné.
Doublé à Lille, il finit deuxième, deux fois deuxième du Scudetto, de la Serie A, derrière la grande Juventus, c'est quand même pas mal pour un coach français.
À Marseille. Après, c'est pas suffisant pour toi.
Marseille est en finale de Ligue Europa, c'est dernier entraîneur.
Rudy Garcia comme s'il avait le totem d'immunité.
Rendre à César ce qui appartient à César.
On a le sentiment que quand on parle de Rudy Garcia, c'est un entraîneur de.
Il faut respecter les gens qui ont travaillé.
À part à Rome, où peut-être il a confirmé deux fois de suite, où il a fait deux fois deuxième. À chaque fois qu'il arrive dans un club, la première saison, bon, à Marseille, il avait réussi en finale de l'UEFA sans faire exprès, parce qu'il faut dire ce qu'il y a à cette époque.
C'est pas le hasard quand je suis en finale de l'UEFA.
Déjà, on n'a pas rencontré des flèches sur notre parcours.
On a rencontré Leipzig qui va à chaque fois en 8e ou en 4e.
C'est un petit peu le match référence de Rudy Garcia. C'est un petit peu le match référence à Marseille.
Mais dans tous les cas, que ce soit Leipzig ou même le FC, je ne sais quoi, tu vas en finale de Coupe d'Europe.
Je trouve que c'est un joueur de poker. Ouais. Il joue cette gamme. Des fois ça passe pas. Pour moi, c'est pas un entraîneur de longue durée. Et il fait pas de travail de fond. Il crée pas toute une équipe. Il arrive, il tente son coup. Il a une main, il la balance sur le tapis. Et ça marche ou ça casse. Et là, en ce moment, il a plus de bonne main.
Mais là, j'ai du mal avec ça. La Bessara de ce matin, elle a fait son effet. Et il a besoin de vacances.
On l'écoute à Mathieu avant de retrouver ça.
C'est que après son passage à Naples, il a été descendu sur la place publique. Et son successeur, on n'entend pas trop parler, quoi. Donc il a été viré peut-être, mais il n'a pas pris tout ce que Rudy Garcia a pris dans la tronche, quoi. Donc je trouve ça un peu, je trouve qu'il y a deux poids deux mesures, quoi. C'est-à-dire que c'est il faut quand même un entre deux.
Ouais.
Moi, je suis d'accord.
Je trouve ça assez compliqué par rapport à Rudy Garcia qui a pris tout ça pleine tête. Quoi.
Et il en pense quoi, Fala? Il est au 01-53-48-3000. Bonsoir, Fala.
Ouais, bonsoir à tous, comment vous allez?
Ça va, salut, ça va très très bien, Fala.
Ouais, super, super. Bah, écoutez, ça fait plaisir d'entendre Yacine, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas entendu.
Eh ben oui, le plaisir est réciproque. Et voilà,
et partagé. Français, partagé. Parce que comme je suis un peu italien...
Ah, italien, bah oui. Non, mais pour en venir, parce que j'ai entendu un peu ce que vous avez dit un peu sur le plateau en parlant du match de Napoli ce soir et de Barcelone et de Rudy Garcia. Après, pour Rudy Garcia, les avis sont, je suis un peu mitigé parce que je suis d'accord avec certains et je suis pas d'accord avec d'autres. Par contre, tout à l'heure, quand j'entendais que Rudy Garcia, c'était le premier entraîneur français à aller en finale d'une Coupe d'Europe. Non, c'est pas le premier, c'est le deuxième.
Le dernier.
Ah, le dernier. Ok, d'accord, pardon, parce que je pensais que j'avais entendu que c'était le premier. J'allais dire non, c'est pas le premier. Le premier, c'était Luis Fernandez, déjà, pour commencer. Mais sinon, pour en venir à Rudy Garcia, un peu sur ce qui se dit autour de lui, Rudy Garcia, je suis pas fan, mais je respecte son travail. Parce que c'est vrai que, comme a été dit autour du plateau, il sait travailler. Alors des fois, ça arrive à terme parce que peut-être sa méthode apprend plus. À l'AS Roma, c'était super bien. À Naples, on a pu voir. Naples, tu n'entraînes pas Naples comme un autre club, comme l'AS Roma. C'est comme à Marseille. Quand tu arrives en France, tu entraînes l'Olympique de Marseille, tu ne peux pas l'entraîner comme si tu entraînais Lille ou si tu entraînais... C'est des clubs vraiment qui ont une importance et un impact, mais avec une histoire. Donc là, le problème avec Rudy Garcia, en fait, c'est plus le problème avec le président De Laurentiis, en fait. C'est ça, en fait. Il y a un problème entre les deux. Je pense pas que c'est au niveau des résultats. Je pense plus que c'est humainement et personnel, en fait. Les attaques qu'il envoie le président de Napoli, c'est plus vraiment pour faire mal à l'humain. Je pense pas que c'est sur les résultats, mais plus pour faire mal à l'humain, en vrai. Parce que comment on voit comment il s'acharne, moi, je trouve ça, c'est un peu mal passé. Alors, c'est le propriétaire, c'est lui, il met son argent, c'est le propriétaire, c'est le président du club. Il a peut-être ses raisons, mais un peu de tact. C'est comme là, on voit ce qui se passe avec Jonathan Clauss. Alors, ce qui peut se passer avec Jonathan Clauss, je l'avais déjà dit, on est au courant de rien. Ça se trouve, en interne, le mec en interne, il a un comportement qui ne passe pas. Et ça, on ne peut pas le savoir et personne ne peut le savoir. Il n'y a que les gens du club qui savent vraiment. Si aujourd'hui, Marseille se permet de sortir ça, des déclarations comme ça, c'est qu'il y a une raison.
Ça, c'est sûr. Là, je te rejoins totalement.
Que je suis d'accord avec lui.
Si De Laurentiis, il se permet de parler comme ça, c'est qu'il y a aussi des raisons. Ils ont leurs responsabilités, ils sont dans leurs droits. Tu es un employeur, tu es employé, tu dois respecter ton employeur et ton club.
Bien sûr. Bien sûr, Fala.
À un moment, tu peux pas non plus, faut pas. Parce que quand j'ai vu l'UNFP là, qui est monté au créneau envers l'Olympique, alors vous me connaissez, moi, je suis important pour tout le monde. Si je dois critiquer n'importe qui, je critique et ça sera juste. Là, je vois quand l'UNFP elle est montée au créneau, mais là, en fait, ils essayent de faire passer. Je défends pas Marseille.
Ouais.
Mais je trouve que Marseille, ils ont raison.
Et mais tu dois pas arriver ton linge sale en public. Ça, c'est une nouveauté. En fait, je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux, mais à un moment donné, tu veux que ça en interne. Hein.
Ouais, non, mais après, il y a un moment où, en fait, faut comprendre une chose. Moi, demain, je suis patron, je fais ce que je veux. Si j'estime que je t'ai donné plusieurs avertissements et que tu comprends toujours pas, là, je vais te faire passer un autre message et je pense que tu vas mieux comprendre.
Ouais, mais le problème, c'est que tu mets en périple le groupe, là.
Ouais.
Mais non, et tu mets en périple le groupe, le problème. Si, c'est une sale ambiance dans le vestiaire.
Non, tu mets pas en péril parce que le groupe il est déjà KO depuis le début de la saison.
Ah oui, mais là tu le remets super KO, il peut pas se relever le groupe. Je suis pas d'accord. Ce qu'ils ont fait à Marseille, Benassia et tout, pour un club de cette envergure là, c'est inacceptable. Inacceptable de laver son linge sale en public, sachant en plus que c'est à 19h avant le match contre Brest. Bref, on en reviendra, mais.
Ouais, mais.
Non, mais non, ça se fait pas. Les gars, c'est pas professionnel, je suis désolé.
Pour toi, ça se fait pas. Là, ça se fait.
En fait, il est.
Ça, les gars, ça, c'est votre avis, en fait.
Ouais.
Vous êtes pas on n'est pas l'intérieur du club. On n'est pas manager, on n'est pas président, on n'est pas directeur sportif.
Les gars, c'est la base d'un club, c'est protéger son groupe pour essayer d'avoir le meilleur résultat.
On est des journalistes. Ouais. Dès qu'on soit des journalistes, on donne nos analyses de ce qu'on voit, ce qu'on entend, plus ou moins. On essaye d'aller chercher les bonnes informations pour pas être trop non plus à l'ouest. Mais ça, c'est des trucs, c'est eux qui gèrent. C'est eux, ils savent pourquoi. Mais si demain, là c'est comme si moi je suis à Beurre FM. Si demain je me permets de faire des déclarations chocs, tu vas à l'encontre de Beurre FM.
Ouais.
Vous croyez qu'à un moment la direction elle va pas venir me voir Bon, écoute, voilà.
Bien sûr, elle va devenir voir toi, elle va pas aller sur la place publique.
C'est tout. Parce que le joueur aussi, pour mettre la photo, c'est pour aussi prendre le en cas. Et là, on va revenir sur le match.
On va revenir. Voilà.
Parce que, en fait, pourquoi je vous parle de Napoli?
On n'a plus le temps, rapidement, le pronostic. Vraiment, voilà, je te jure.
Parce que Napoli, c'est un peu à l'image de ce qui est Marseille aujourd'hui.
Ouais.
Napoli, ils ont gagné le titre l'année dernière, mais ils n'arrivent pas à enchaîner cette deuxième saison. On le sait très bien, c'est pas le Milan.
Fala, ça sera le mot de la fin, Fala, désolé, parce qu'on doit enchaîner avec Aurélien Duarte qui nous a rejoint en studio, vraiment, c'est un plaisir, Fala, on se retrouve de toute façon vendredi en studio avec toute l'équipe de Tom Sport, c'est super sympa, voilà, parce qu'on n'a plus le temps, en place justement, allez, à Aurélien Duarte.
Bonsoir Bilal, bonsoir toute l'équipe, bonsoir les auditeurs et les auditrices, très heureux d'être avec vous pour cette 41e chronique. Osez dire non. Le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Aujourd'hui, au jour du oui. Oui, si oui compte parmi les mots les plus doux à entendre, apprenons aussi à dire non. Vu que tu as une voiture, tu peux venir me chercher ? Tu peux me prêter de l'argent ? Tu viens à la soirée ce week-end ? Ah, j'ai une galère. Tu peux garder mes gosses ? Dans combien de situations inconfortables et pesantes nous sommes-nous retrouvés après avoir octroyé un oui sans se laisser le temps de réfléchir ? Sous le coup de l'émotion, pour faire plaisir, par convention familiale, sociale ou culturelle, par peur de décevoir ou de blesser, par crainte d'être rejeté, d'être jugé et catalogué comme méchant, égoïste ou indifférent. L'angoisse des représailles, d'entendre un nom de vengeance patiemment embusqué qui nous attendra à notre prochaine requête, afin d'être apprécié de tous. À vouloir plaire à tout le monde, cause perdue, c'est à toi que tu ne plairas plus. Par ces comportements, tu confirmes ta peur du rejet et ton besoin indispensable d'être validé par les autres, ta soumission à leurs désirs, t'assurant de te faire exploiter jusqu'à l'épuisement, une grande vulnérabilité dont certains vont abuser. Avec cette attitude, tu comprends mieux pourquoi tu attires à toi des égos avides dans des corps de manipulateurs ou manipulatrices insatiables, qui t'en demandent toujours plus, ou à des moments où c'est difficile ou coûteux pour toi de dire oui. Alors, choisis-toi et ose dire non. Pose des limites. C'est le chemin le plus sûr pour obtenir ce respect que tu désires tant. Dire non avec tact et fermeté et bienveillance te fera ressentir le soulagement de ces contraintes qui n'étaient pas les tiennes. La fierté d'avoir fait preuve d'assertivité et l'incommensurable sentiment de liberté d'exprimer enfin ce cadeau divin qu'est le libre arbitre. Tu as le choix. Tu récupères le temps et l'énergie que tu consacrais aux autres pour t'employer à tes aspirations personnelles, les voir se réaliser. Tu développes par ce biais ta confiance en toi et tu goûtes à la sérénité d'un esprit apaisé dans un corps plus détendu, donc plus efficace. Pour te motiver à te servir, demande-toi, quand je dis non à cela, à quoi est-ce que je dis oui ? Je t'aime et je me préfère. Afin d'honorer aussi la position humble de celui qui ose demander, c'est pas facile d'entendre un non. Comment formuler un refus avec bienveillance ? 1. Laisse-toi le temps de la réponse et propose un moment pour la donner. 2. Remercie pour la demande. 3. Reconnais le besoin ou la peur qui se cache derrière. 4. Exprime clairement ton refus en argumentant avec sincérité si nécessaire. 5. Émets un souhait d'amélioration ou propose une autre alternative. Exemple. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent ? Je te remercie pour ta demande. Je comprends que tu as besoin et en ce moment, c'est pas facile pour moi non plus. Je suis désolé et j'ai pas cette somme. Je te souhaite de trouver une solution. Et la phrase magique. Comment est-ce que je peux t'aider autrement? Merci.
Un grand merci à Aurélien. Ben voilà, comme chaque mercredi soir, sa fameuse chronique, Vanessa qui arrive, 21h, 23h, nous on se donne rendez-vous dès demain à partir de 20h, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Un grand merci à toute l'équipe.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.